C'est vrai que la vie continue, mais c'est terrible. Parole de victime à Nice à l'occasion de la cérémonie d'hommage national qui se tient en ce moment, un an jour pour jour après l'attentat de la promenade des Anglais. Nice se recueille, continue de panser ses plaies, mais n'oublie pas. Après un tel traumatisme, une telle violence, la reconstruction pour les victimes est-elle possible? L'accompagnement médico-psychologique est-il aujourd'hui suffisamment bien organisé pour les aider? Autre question d'actualité, après la disparition du poste de secrétaire général d'aide aux victimes, l'État va-t-il continuer à jouer pleinement son rôle pour aider les victimes d'attentats? Question au téléphone sonne ce soir sur France Inter, un an après les attentats de Nice, la résilience est-elle possible? Intervenez au 01 45 24 7000, c'est le téléphone sonne, vous êtes sur France Inter, c'est jusqu'à 20h.
Stéphane Leneuf, le téléphone sonne.
Et autour de la table, trois invités ce soir. Thierry Bobet, bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes psychiatre responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique de Seine-Saint-Denis. Patrice Louville, bonsoir.
Bonsoir.
Psychiatre, vice-président de l'AFOR-CUMP, l'association qui forme les intervenants des cellules d'urgence médico-psychologique. Et dans quelques instants, Marie-Claude Desjeux, la vice-présidente de la FENVAC, la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, nous rejoindra ici en studio. Elle a un petit retard, mais elle interviendra dans quelques instants. Messieurs, j'ai envie de vous faire réagir d'abord sur ces expressions du président de la République il y a quelques instants, lors de la cérémonie d'hommage à Nice. Emmanuel Macron a dit vis-à-vis des victimes « comprendre la colère de l'État ». Tout sera fait pour que l'État, la puissance publique, regagne votre confiance. Et enfin, l'État ne se soustraira ni à son devoir de clarté, ni à son devoir de compassion. Votre réaction par rapport à ces déclarations du président de la République? Thierry Bobet.
Alors, effectivement, la colère, la rage, le besoin de comprendre au maximum ce qui s'est passé, l'enchaînement des faits, toutes les expressions émotionnelles fortes sont des éléments qu'on retrouve toujours dans les situations de traumatisme et d'effroi. Concernant toutes ces personnes de Nice, je pense qu'il faut faire attention à ne pas résumer ça à la question du traumatisme simplement. Puisque on est face à une population qui a vécu à grande échelle à la fois le traumatisme et le deuil. Et ça, ce sont des tableaux qui sont compliqués, extrêmement douloureux, et qui, pour certains d'entre eux, ont tendance plus fréquemment à se chroniciser, et qui donc nécessitent une attention, je parle sur le plan de la santé, immédiate, dès l'immédiat. Et ça, c'est le travail des cellules d'urgence médico-psychologique. Mais une attention aussi sur le long terme, puisque, par exemple, aujourd'hui, à Paris, presque 2 ans après, nous avons des nouveaux patients du Bataclan qui arrivent, qui n'avaient pas encore consulté, qui sont restés 1 an et demi dans une situation de souffrance, de manière un peu isolée. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ce retard dans l'accès aux soins, mais on peut se dire que, quand même, il y a sans doute quelque chose qu'il faut mieux organisé au cours du temps. Quoi.
Patrice Louville, cette réaction d'Emmanuel Macron, où il me semble que l'État fasse un peu son mea culpa par rapport aux victimes.
D'abord, il faut bien se rendre compte que les victimes d'attentats ne sont pas... sont des victimes un peu particulières. Elles sont qualifiées de victimes civiles de guerre, parce que ce sont des personnes qui ont été frappées au cours d'un acte qui est un acte hostile vis-à-vis de la nation. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, l'État se doit de leur apporter, on va dire, une attention particulière, et un certain nombre de modalités sont prévues pour l'accompagnement de ces personnes. Je suis pas sûr que, par contre, la compassion soit suffisante. Je pense que ces personnes ont besoin d'une prise en charge, elles ont besoin de soins, elles ont besoin d'un accompagnement dans une démarche, on va dire, de restauration, de de leur mode de vie, de leur intégrité, de leur subjectivité. Et donc, il y a effectivement encore beaucoup à faire, à mon avis, pour pouvoir améliorer l'accompagnement de ces personnes. Et je le dis, j'aurai peut-être l'occasion de le redire, mais je dirais qu'au-delà du cas un peu particulier des victimes d'attentats, il y a beaucoup d'autres catégories de victimes d'agressions, d'événements traumatiques en France qui, elles aussi, mériteraient sans doute des efforts supplémentaires dans leur prise en charge.
Au standard 01 45 24 7000, nous avons Alain qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Alain, on vous écoute.
Oui, bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir au docteur Louville, merci de votre excellente émission. Voilà, j'ai une question très spécifique sur le problème du traumatisme. La France est frappée depuis des décennies maintenant. Je sais que le docteur Louville est un spécialiste depuis 30 ans. Mais on oublie toujours que derrière le traumatisme, au-delà du stress post-traumatique dont on parle tout le temps, il y a des deuils, il y a des morts, et il y a des endeuillés qui vont parfois très mal. Et on sait depuis les attentats de New York que le taux de deuil pathologique à la suite des traumatismes mortels est très élevé. Donc je voudrais savoir quelle est l'opinion du docteur Louville et surtout qu'est-ce qu'il propose, lui, en tant qu'institutionnel pour le traitement du deuil.
Patrice Louville vous répond, Alain.
Ah oui, je suis interpellé là. Effectivement, Thierry Bobet l'a déjà souligné, ce sont des situations, particulièrement les attentats, mais aussi les catastrophes, toutes ces situations traumatiques à caractère collectif, elles vont générer pour les individus qui sont frappés un certain nombre de troubles psychiatriques, le stress post-traumatique, mais aussi la dépression, mais aussi d'autres troubles anxieux, mais aussi le fait de tomber dans un certain nombre d'addictions, notamment l'addiction à l'alcool. Et pour d'autres personnes, elles vont être frappées par le deuil, quelquefois des deuils multiples qui sont d'autant plus traumatiques. Et effectivement, c'est là encore, c'est une dimension qu'il convient de prendre en charge. Moi, je me réfère au livre écrit par mon collègue le docteur Sautreau sur la prise en charge du deuil, qui est, à mon avis, encore insuffisamment connu parmi les professionnels en France, mais qui donne un certain nombre de pistes. Mais là encore, c'est aussi un problème de moyens qui peuvent être dégagés, on va dire, au quotidien, mais aussi suite aux situations de crise. Et l'exemple, aussi bien ce qui s'est passé à Paris après le 13 novembre que ce qui se passe encore à Nice après l'attentat du 14 juillet, montre que on a d'autant plus de mal à mettre en place des systèmes de réponse augmentés suite à ces situations, qu'on dispose de peu de moyens au quotidien pour aborder ce genre de pathologie.
Thierry Bobet.
Oui, peut-être on peut rajouter que parmi les personnes endeuillées, il y a les enfants. Les enfants des victimes. Alors chaque mort violente laisse au moins une dizaine de personnes très très affectées hein, par la disparition, et parmi eux donc justement les enfants, y compris les enfants très jeunes. Et là, on a encore relativement peu de données sur les conséquences, en tout cas de données françaises, mais on sait que les effets des deuils parentaux, notamment chez l'enfant, sont très lourds, qu'ils peuvent augmenter le risque de difficultés pendant toute la vie. Donc là aussi, il y a des interventions à penser auprès de ces enfants et de leur famille, et du parent survivant ou des proches qui s'occupent de l'enfant. Et c'est un travail que mène notamment à Nice le professeur Florence Askenazy, qui est une pédopsychiatre, qui est la chef de service de l'hôpital de psychiatrie de l'hôpital de Lanval, et qui a été décoré cet après-midi donc de la Légion d'honneur, et qui a fait un travail formidable avec son équipe auprès de tous ces petits Niçois. Elle a reçu plus de 1000 enfants avec son équipe, traumatisés ou endeuillés.
Et quelles sont les spécificités du traumatisme effectivement chez l'enfant par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette violence finalement de l'attentat par rapport à l'adulte?
La spécificité, si vous voulez, déjà, le jeune âge ne protège pas des traumatismes. Hein. Un bébé peut être traumatisé par un événement, ça c'est un premier point. L'expression, les manifestations symptomatiques vont être bien sûr un peu différentes selon l'âge de l'enfant. Mais surtout, le point important, c'est que quand un traumatisme survient chez un adulte, il produit des différents symptômes et éventuellement des maladies. quand il survient chez l'enfant, il produit en plus une altération du développement de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, c'est un être en croissance qui a des tâches développementales à acquérir tout au long de son enfance. Apprendre à lire, apprendre à être avec les autres, apprendre toutes ces tâches se succèdent, si vous voulez, dans le développement de l'enfant. Et un enfant qui est traumatisé va avoir une altération de ce développement, qui va en fait avoir des conséquences très lourdes qui peuvent peser sur toute sa vie ultérieure. Hein, s'il se déscolarise, s'il s'isole, si... Donc il y a vraiment un enjeu majeur pour à prendre en charge correctement les enfants, pour qu'ils souffrent moins, d'une part, mais aussi pour qu'ils puissent se développer et grandir.
On retourne au standard 0145 24 7000 avec Laurent qui nous appelle de Mans. Bonsoir Laurent, on vous écoute.
Oui, bonsoir monsieur et aux auditeurs. Je voudrais proposer deux idées. Le fait que le traumatisme au sens courant, c'est l'événement lui-même, le choc subi par les personnes, et de façon plus technique, je suis psychologue clinicien, ce qu'on appelle le trauma. C'est la résonance de cet événement, l'après-coup. Il peut se manifester assez rapidement dans les jours qui suivent, et on peut presque penser que c'est préférable, mais il peut aussi ressurgir des mois et même des années après, comme le psychiatre le signalait. Une consultation par rapport à des gens qui ont subi le Bataclan, qui intervient 2 ans après, c'est pas nécessairement pour des raisons techniques, ou je veux dire des raisons de disponibilité de service. Ça peut être ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Voilà, donc il faut le savoir et être disponible. Dans le fond, il faut que de l'aide soit étalée dans le temps et sans que ce soit nécessairement un suivi. Il s'agit d'une disponibilité. Il faut que les gens sachent que c'est normal et qu'ils peuvent trouver des gens qui sont capables de les écouter et de soigner ça. La deuxième idée, c'est l'indemnisation financière. C'est très important qu'elle soit rapide. Et là, peut-être qu'on a des progrès à faire. C'est un événement complètement arbitraire qui tombe, un accident, au sens où ça tombe sur la tête des gens, et bon, ça les tue ou ça ne les tue pas. Pour ceux qui survivent, l'indemnisation est une réparation tangible, immédiate et libre. L'argent, on peut faire ce qu'on veut avec. C'est dire, on m'a briser une partie de ma vie, ça va probablement durer, ça ne répare pas tout l'argent. Mais ça peut être plus qu'un pansement, si vous voulez, une régénération très prochaine. Et ça, il faut que ce soit rapide.
Merci Laurent de votre témoignage, Marie-Claude Desjeux, bonsoir. Vous venez d'arriver. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la FENVAC. Ce que dit Laurent, la rapidité d'indemnisation, c'est très important pour les victimes.
Bien sûr que c'est très important. La problématique, c'est que l'indemnisation fait partie des difficultés d'un dossier dans ce type d'événement. Il faut savoir que la complexité des dossiers, d'une part, a monté, et puis la nature des préjudices. On peut pas faire de grille, si vous voulez, d'indemnisation que l'on pourrait déclencher tout de suite. Chaque cas est un cas particulier, chaque problématique est une, chaque victime est un cas particulier, et on ne peut pas, malheureusement, on aimerait le faire, déclencher des indemnisations aussi rapidement. Mais je rappelle quand même que le fonds de garantie, dès lors que la victime fait partie de ce qu'on appelle la LUV, c'est-à-dire la liste unique de victimes, qui est transmise par le pôle terroriste, le fonds de garantie verse immédiatement une avance qui n'est pas la même pour tout le monde. C'est en fonction de ce qui émerge. Hein, si vous avez perdu un enfant, si vous avez perdu un parent, si vous avez des blessures, mais il y a des provisions qui sont versées, et celles-là, elles arrivent assez vite après l'événement. Moyennant quoi, évidemment, ça ne suffit pas. Beaucoup de gens sont dans des précarités graves. Et d'ailleurs, l'attentat de Nice a été pour nous une expérience où on a pris conscience qu'il y avait une dimension sociale que nous n'avions pas forcément eue, en tous les cas aussi importante, dans les événements de Paris.
Il y a une charte de l'expertise médicale, c'est ça qui a été mise en place. Est-ce qu'elle est suffisante aujourd'hui?
Alors, je ne suis pas une grande spécialiste de l'indemnisation. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a des préjudices. préjudices qui sont le préjudice d'affection, le préjudice économique, le
préjudice d'angoisse aussi.
Alors le préjudice d'angoisse, il y a, je crois, une réflexion qui est menée sur le préjudice de la mort imminente, à la fois pour celui qui est pris en otage et puis pour la famille qui attend. Mais pour l'instant, ça n'est pas du tout dans la nomenclature. Moyennant quoi, en fait, c'est à chaque fois du sur-mesure. Il faut savoir que constituer un dossier d'indemnisation, c'est très lourd et très long. D'ailleurs, c'est la raison même de la FENVAC, c'est l'accompagnement que nous donnons à chaque victime, c'est de pouvoir collecter le maximum d'informations en balayant finalement toute sa problématique affective, sociale, économique, et qui permettra de lui donner une réparation. Mais je tiens quand même à dire que pour tout ce qui est réparation des blessés, ça prend plusieurs années. Parce que bien évidemment, il faut imaginer en fait les problèmes qui interviendront dans le temps. Et tout à l'heure, je crois que c'était l'auditeur précédent, ou même ce monsieur, qui expliquait que parfois, il y avait des traumatismes psychiques, donc des traumatismes invisibles, et qui se révélaient des années après. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à mesurer pour qu'une indemnisation soit le plus proche possible des préjudices qu'une victime a subis.
Mais en quoi, concrètement, une prise en charge de ces indemnisations pourrait être améliorée ? Dans la rapidité de la prise en charge, justement, de l'indemnisation.
Oui, alors, elle pourrait être améliorée. Aujourd'hui, chaque victime a des indemnisations. Il n'y a pas d'uniformité. Et puis, surtout, dans l'indemnisation, il y a un critère qui est très important, c'est que les victimes doivent justifier qu'elles sont victimes. Donc, en fait, elles sont victimes deux fois. Victimes d'un attentat et victimes par le fait qu'elles doivent prouver qu'elles sont bien victimes. C'est très lourd à gérer. Ensuite, pour les blessés, il y a tout un tas d'expertises. Les expertises sont très longues. Si je prends le cas de Nice, à Nice, il n'y a pas d'experts ou très peu d'experts dans la région PACA. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces expertises, qui va aller les faire ? Donc c'est une vraie problématique.
Patrice Louville, vous voulez réagir ?
Oui, c'est un domaine très compliqué. Alors peut-être d'abord par rapport à la longueur des l'attente de l'expertise. Cette attente, c'est aussi un problème technique, parce que par exemple pour évaluer les séquelles psychiatriques et notamment le syndrome psychotraumatique, on est relativement obligé d'attendre un an et demi, que les lésions, on va dire les troubles psychiques aient évolué. Soit ils se sont chronicisés, stabilisés, soit ils sont allés plutôt vers l'amélioration. Mais on peut difficilement prétendre indemniser justement une personne qui souffre de syndrome psychotraumatique avant un an et demi. Par contre, c'est vrai que c'est aussi un problème pour un certain nombre de personnes que d'attendre effectivement... de façon prolongée cette expertise en se demandant si ils sont pas un peu abandonnés, etc. L'autre problème, c'est que les victimes, notamment les victimes d'attentats, procèdent de différents champs. Le champ médical, le champ psychologique, le champ social, le champ juridique, etc. Donc, c'est vrai que ils ont quelquefois du mal à se débattre parmi tous ces champs, qui correspondent à autant d'administrations, on va dire, qui ne sont pas toujours cohérentes entre elles. Et là, ça ajoute aux difficultés que rencontrent ces victimes.
On retourne au standard 01 45 24 7000 avec Margot. Bonsoir Margot.
Bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, l'objet de mon appel est le suivant. On peut comprendre la peine et les peines des uns et des autres qui ont subi des attentats ou des choses qui font... qu'on ne peut difficilement que remonter. Je leur dis ceci. Je suis une petite fille, entre guillemets, qui a maintenant 82 ans et qui a été sauvée, cachée pendant 7 à 8 ans devant les rafles de tous les enfants et mes cousins sous mes yeux, ramassés pour aller au camp de Gurs et d'ailleurs et de Rivelsalt, etc. Je ne suis pas du tout d'accord. Excusez-moi. Je veux le comprendre, hein. C'est pas du tout un jugement. Je veux dire que on a le droit de parler de résilience, ah, ça fait très bien, très BCBG. Non, ce n'est pas suffisant. Nous l'emporterons notre vie durant. avec nous. Mais ce qui nous est demandé face à des choses aussi dramatiques que les attentats, ceux-là de Nice, ceux-là d'ailleurs, c'est que fais-tu de ta vie ? Est-ce que tu peux apporter quelque chose aux autres ? Et j'appelle ça la reliance. Soyez satisfaits. Je vous gâte, je ne devrais pas le dire. Aussi tragique que c'est, et aussi formé que c'est formidable. Lorsque j'ai travaillé des années avec Madame Simone Weil, et je suis en train de l'écrire à droite et à gauche dans mon blog et d'autres, bref. Ceci étant que nous ne parlions pas de cette période qui nous a cassés, salis, détruits quelque part, mais surtout qui nous a instruites à aimer la vie et à apporter de tout notre cœur tout ce que nous pouvions faire pour les uns.
Merci.
Pour les uns et pour les autres.
Merci Margot de votre témoignage. Marie-Claude Desjeux, vous vouliez réagir ?
Oui, madame. D'abord, je suis très émue par votre témoignage et je comprends tout à fait ce que vous dites. Permettez-moi de vous faire part de mon expérience personnelle. Il y a 3 ans, j'ai personnellement perdu un frère dans un attentat épouvantable en Algérie. Je suis allée en Algérie chercher son corps. J'ai vu des choses horribles. Et en fait, c'est en rentrant où je me suis dit, je ne peux pas en rester là. Et pour pouvoir finalement approprier cette nouvelle vie, où à la fois il y avait la douleur d'une famille, comme de votre famille, madame, eh bien, pour continuer à vivre, vous avez raison de dire qu'il faut continuer à aimer, continuer à se donner aux autres, parce que finalement, c'est ça qui est la vraie vie. Et même si ces événements que vous avez vécus, ces événements que j'ai vécus, des événements que beaucoup, beaucoup de gens ont vécu à travers le monde, eh bien justement, je crois que c'est ça qui nous donne la force de pouvoir apporter du bien aux autres.
Thierry Bobé, vous vouliez réagir au témoignage de Margot ?
Oui, bien sûr.
Je ne crois pas vraiment à la résilience.
J'ai écouté avec moi aussi beaucoup d'émotions ce que disait madame. Et effectivement, vous disiez croire en la résilience. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est une croyance ou pas, mais il faut faire attention, effectivement, quand on utilise le concept de résilience, de ne pas le transformer.
On rappelle ce que c'est très, très concrètement la résilience. C'est se reconstruire après un immense traumatisme.
De façon extrêmement simplifiée, c'est ça. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que veut dire se reconstruire ? Est-ce que c'est revenir à l'état d'avant ? Alors ça, je crois que ça n'est pas possible quand on a été marqué par le deuil ou par l'effroi. Donc c'est sans doute évoluer vers un autre état auquel on ne peut pas avoir accès immédiatement. Et c'est surtout pas être adapté, c'est-à-dire rentrer dans les normes que voudrait nous imposer la société, d'aller bien, d'être productif, de pas se plaindre, etc. Si on voit la résilience comme ça, c'est un pseudo-retour à la normale qui est en fait une espèce d'adaptation aux exigences de l'extérieur. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Puisque l'effroi et le deuil, ce sont des choses qui vont marquer les gens pour leur vie, même si elles ne deviennent pas pour autant malades. Hein, tout le monde ne développe pas de troubles. Mais par contre, tout le monde porte à l'intérieur de lui une blessure, une marque qui va l'obliger à reconsidérer le sens de sa vie, le sens de ses relations aux autres, ses choix de vie. Ça peut être son travail, ça peut être ses amours, ça peut être plein de choses. Et il va falloir, comme ça, trouver un nouvel équilibre. On est loin d'une simple adaptation à ce que la société exige de nous. La résilience, ça ne doit pas être ça. Donc le terme de reliance que propose madame est très beau et très pertinent, je trouve.
Patrice Louville.
Oui, je dirais qu'on est de nouveau dans la thématique de l'indemnisation. Parce qu'en fait, on peut concevoir la résilience, comme l'a dit Thierry Bobé, comme repartir, mais différemment. C'est-à-dire que vous avez une trajectoire de vie, vous traversez un événement tel qu'un attentat, et votre trajectoire de vie va être nécessairement changée. Elle va être modifiée, et peut-être en mieux, souvent en moins bien. En tout cas, ça va prendre du temps pour retrouver une façon de d'exister à peu près satisfaisante, et c'est justement ça que vient tenter de compenser les indemnisations, c'est-à-dire ce que vous avez perdu dans votre trajectoire de vie, on essaye de le compenser de cette façon.
Et est-ce qu'on retrouve, c'est une question peut-être un peu béotienne, mais est-ce qu'on retrouve quand même sa vie antérieure?
Non.
On revient jamais en arrière, hein, dans la vie, hein, ça, je pense que tout le monde en est bien conscient. Et on ne retrouve pas, on laisse des choses, on perd des choses dans cette traversée. Peut-être on peut perdre, certaines victimes disent une certaine naïveté ou une certaine innocence ou bon. Mais on peut aussi en gagner d'autres, de nouvelles compétences, de nouvelles façons d'agir sur le monde. Moi, je pense qu'il faut bien faire attention aussi que là, on est dans des situations de violence qu'on appelle de la violence intentionnelle, c'est-à-dire qu'elle est produite sur vous par un autre être humain. C'est un peu différent d'une inondation ou d'un coup de tonnerre. Là, il y a un autre être humain qui donc est a priori quelqu'un comme nous, qui a pu nous faire un tel mal délibérément et en regardant les gens dans les yeux. Et ça interroge très profondément, hein, même à un niveau que je dirais existentiel, philosophique, sur la nature humaine, sur comment qu'est-ce qu'un être humain finalement, et est-ce que moi aussi je peux être monstrueux, etc. Donc c'est un bouleversement, si vous voulez, qui va obliger à un long travail sur soi, qu'il y ait ou pas l'émergence de symptômes psychiatriques.
Marie-Claude Desjeux.
Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. D'abord, on ne peut plus être comme avant. Voilà, c'est un fracas dans une vie. Ce qu'il faut arriver, c'est à concevoir, accepter que vous n'aurez plus le même aperçu de votre vie, mais qu'il faudra composer avec cette nouvelle donne. Ça ne veut pas dire que certains changent de vie, vous avez raison, tout à l'heure vous l'avez dit, changent de vie complètement. D'autres, en tous les cas, ce qui me concerne, ça n'a pas été mon cas, mais j'ai appris. Il faut apprivoiser ce nouvel état. Et pour ma part, je ne parle que de mon expérience personnelle, je trouve que ça fait grandir et ça permet d'avoir une ouverture. Mais tout le monde n'a pas cette capacité, mais tout le monde ne peut pas le faire parce que chaque victime est différente, chacun a des moyens complexes de composer avec ces événements. Et il faut que chacun puisse le faire selon son propre parcours. Il n'y a pas de règles.
France Inter, 19h45.
France Inter, le téléphone sonne, Stéphane Leneuf.
Et au 01 45 24 7000, on retrouve Franck qui nous appelle de Paris dans le 15e arrondissement. Bonsoir Franck, on vous écoute.
Bonsoir. Oui, donc moi, à mon niveau, une simple remarque. J'entends que ce soir, on entend surtout des professionnels de la santé psychologique, etc. Bon, il me semble que on ne doit pas que du soutien psychologique aux victimes de cet attentat, comme des autres attentats. On leur doit aussi la justice. Où en est l'enquête? Je relève qu'il n'y a aucune mise en cause sérieuse d'aucune autorité politique ou policière. Et il me semble que cet aspect-là, pourtant, n'est pas anodin et qu'il aiderait très certainement à la reconstruction psychologique des victimes. Donc pourquoi est-ce que cet élément-là n'est jamais pris en compte et n'est jamais évoqué?
La reconstruction, le rapport effectivement avec la justice, Marie-Claude Desjeux, c'est important.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les victimes sont en recherche de vérité, bien évidemment. Elles veulent comprendre, passer la stupéfaction. La deuxième phase, c'est la compréhension. Et justement, c'est un des éléments très importants au sein de la FANVAC, c'est que notre association, qui est en fait une fédération qui regroupe les associations de victimes, la FANVAC est automatiquement partie civile dans les procédures. Ce qui fait que nous avons accès aux dossiers et que, justement, dans les méandres méandre judiciaire que les familles ne comprennent pas tout le temps. Nous, avec nos équipes d'avocats et nos réseaux, puisque nous sommes quand même bien implantés, nous arrivons justement à les informer, quand ils n'ont pas, eux, d'informations directes, à les informer, à aller chercher des éléments, à leur, voilà, à les tenir au courant, parce que c'est très important. Je dois dire que, bien évidemment, ils veulent la vérité, ils vont rechercher des responsabilités, particulièrement en France. Pour ce qui est de Nice, je sais que l'enquête est encore en cours, il y a beaucoup d'investigations. Je crois savoir aussi que la relation entre le terroriste et Daesh n'est pas encore établie, même si Daesh a revendiqué cet attentat 36 heures après, mais c'est pas dans les méthodes de Daesh de revendiquer aussi tard. Et donc pour l'instant, j'ai cru comprendre que l'enquête ne met pas forcément une relation directe. Donc tout ça prend du temps. On peut pas faire une enquête de ce type en quelques heures ou quelques jours. Donc les familles ont besoin d'avoir des informations régulières. Il y a des réunions d'informations très régulières. Si je prends le cas de Londres, par exemple, il y a eu une réunion d'information générale au consulat où toutes les familles concernées ont eu un état des lieux, si vous voulez, de l'enquête et en tous les cas de ce qui était projeté pour cette enquête.
Thierry Bobet, il y a effectivement cette demande de la part des victimes, comme vient de nous le dire Marie-Claude Desjeux, de cette attente du côté judiciaire aussi pour les enquêtes.
Oui, votre auditeur a entièrement raison. Il ne faudrait pas résumer les besoins des victimes à un champ. Alors, pas le champ de la santé, certainement, qui est une des composantes. Il y a aussi le champ des questions juridiques.
Des questions sociales aussi au niveau du travail, voilà, de la réinsertion.
C'est ce que j'allais dire. Voilà. Également non, des questions sociales, puisque... les grandes études qui ont été faites après le World Trade Center, par exemple, et qui ont été faites 10 ans ou 15 ans, enfin 12 ans après, ont montré que les difficultés sociales, l'isolement, la perte du travail, parfois consécutive à l'attentat d'ailleurs, était un des facteurs les plus forts de mauvais pronostics à long terme. Donc là, il y a sans doute quelque chose qu'on sous-estime encore un peu, hein, les besoins en matière d'aide sociale et d'insertion, et encore ça dans le long cours, puisque pour les gens qui sont très affectés, parfois l'arrêt de travail, l'impossibilité de travailler peut durer des mois, voire une année, voire même un peu plus. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Quel devenir? Quelle insertion? Là, il y a une question qui est critique.
Alors, Marie-Claude Desjeux, justement, les associations de victimes ont fortement critiqué le fait qu'il n'y ait plus de secrétariat d'État. Oui. Dans l'aide aux victimes, il y a désormais un délégué interministériel. L'avantage du secrétariat d'État, c'est qu'effectivement, il était rattaché à Matignon et il regroupait tous ces dossiers, finalement.
Exactement.
Qui ne sont pas uniquement médicaux. Qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui avec le fait qu'il y ait un simple délégué interministériel?
Eh bien, c'est très simple. On revient à avant 2015, c'est-à-dire que 2015, les attentats à la fois de janvier et de novembre 2015 ont montré les limites de la prise en charge des victimes en France. Et d'ailleurs, le constat a été assez rapide, puisque le président Hollande a nommé Juliette Méadel à la tête de ce secrétariat d'État. Elle est partie d'une page blanche. En 18 mois, nous avons beaucoup travaillé avec elle, nous avons mené beaucoup de réflexions, des ateliers, et il y avait un socle, il y avait un canevas de dispositions qui était en train de prendre forme. L'arrivée du nouveau quinquennat nous fait craindre le pire. Et d'ailleurs, si j'entends et si je reprends les mots qui ont été ceux du président Macron à Nice
à l'heure... Je les rappelle, on en a parlé rapidement en début d'émission, vous n'étiez pas encore là. Emmanuel Macron a dit, c'est donc adressé aux victimes, tout sera fait pour que l'État, la puissance publique, regagne votre confiance. L'État ne se soustraira ni à son devoir de clarté ni à son devoir de compassion.
Oui,
et c'est les phrases qui vous touchent et qui vous rassurent quelque part,
non,
ou pas?
Non, ça ne me rassure pas du tout, parce qu'il a derrière insisté sur le fait qu'il ne changerait rien à la décision qu'il avait prise, c'est-à-dire de relier l'aide aux victimes à la garde des Sceaux et à la déléguée interministérielle. Si nous n'avons plus un guichet unique, puisque finalement ce secrétaire général d'aide aux victimes qui avait été nommé de façon pérenne, je le rappelle, avant la fin du quinquennat du président Hollande, il avait été nommé donc auprès de Matignon. Nous avions donc un relais, un pouvoir de décision centralisé, et ce qui permettait de faire avancer des décisions. Vous savez, les victimes, elles attendent pas. Hein, on peut pas. Déjà, elles attendent très longtemps les procès, elles attendent très longtemps les indemnisations. On peut pas continuer à les faire attendre indéfiniment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, l'interministérialité, on sait que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnait comme ça avant 2015. Et vous savez, je le disais tout à l'heure sur le plateau de BFM, j'ai beaucoup, je pense beaucoup à Françoise Rudzewski aujourd'hui, qui depuis son attentat de 86 se bat pour les victimes. Et finalement, ce combat qu'elle a mené a porté ses fruits avec la création de ce secrétariat d'État. Et finalement, ce travail qui a été fait avec toutes les équipes de bénévoles, les associations. Et en fait, ce travail est réduit à néant aujourd'hui. Il faut tout recommencer. Alors je doute qu'aujourd'hui l'État, dans l'état actuel des choses, puisse apporter une réponse globale aux victimes.
On va retourner au standard dans un instant. Patrice Louville, vous vouliez réagir ?
Oui, j'ai un peu d'ancienneté sur le sujet, puisque j'ai participé à la création d'ECUMP avec Xavier Emmanuelli, qui était donc secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence. J'ai ensuite travaillé beaucoup avec Bernard Kouchner, qui à l'époque était ministre de la Santé. Et ce que j'ai pu constater, effectivement, c'est que souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, les victimes dépendent de plusieurs champs. Par rapport notamment au département ministériel, et ce que j'ai pu constater, c'est que souvent, quand on n'a pas un pilote à la tête de l'équipe, ça tire un peu dans tous les sens. J'ai un souvenir particulier. En 2003, le ministère de la Santé a sorti un guide de la prise en charge des victimes de catastrophes. Et en 2004, le ministère de la Justice a sorti le même guide. Et il se trouve qu'il y avait des aspects tout à fait contradictoires entre ces deux guides qui émanaient pourtant du gouvernement de la République. Donc je crois que ce qui est important, au-delà, on va dire, de l'appellation secrétariat d'État, secrétariat général, je crois que c'était l'aspect pilotage par quelqu'un qui émanait de l'autorité du Premier ministre, qui était important dans ce dossier, et c'est ça qu'il faudrait pouvoir retrouver.
Et l'aspect regroupement, effectivement, de tous les champs possibles, malheureusement, on l'a vu, hein, social, médical, autour des victimes d'attentats. On retourne au standard, au 0145 24 7000. Sabine, vous nous appelez de Megève, on vous écoute, Sabine.
Vous m'entendez, là ?
Oui, on vous entend très bien, Sabine, vous pouvez parler.
Bon. Bon, alors simplement ce que je voulais dire, il y a 31 ans, on a perdu dans la famille, mes parents ont perdu deux fils, deux belles-filles, quatre petits-enfants dans un accident d'avion. Moi, je suis partie, ça s'est passé au Mexique, je suis partie toute seule là-bas, parce que j'étais la seule de la famille à pouvoir le faire, et je me suis retrouvée avec deux nièces qui avaient perdu leur père, leur mère, leur frère, et il fallait que j'aille à la morgue, que je les reconnaisse, que je les ramène en France. Bon, pendant les 6 mois qui ont suivi, j'ai fait énormément de choses, donc ça m'a, si vous voulez, ça m'a aidé. Mais après, j'ai eu le tort de pas parler à quelqu'un, enfin, de pas me faire aider, mais il n'y avait pas d'aide à cette époque-là. Et je peux vous dire, depuis 31 ans, mon deuil est fait parce que j'ai des enfants, des petits-enfants, qui m'ont aidé, parce que la vie continue, mais en fait, je suis passée de l'autre côté d'une barrière, et on fait jamais son deuil. On le fait, mais on fait pas complètement. Ça reste, ça vous poursuit toute la vie. Je rejoins la personne qui a travaillé avec Simone Veil, qui a parlé tout à l'heure.
C'était Margot.
Voilà, c'était Margot. J'ai eu d'ailleurs la chance de connaître monsieur et madame Veil, justement autour de cet accident. Et vous ne pouvez pas, c'est impossible. Et je ne supporte plus les gens qui se plaignent pour des bricoles, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir un gros drame.
Merci Sabine pour votre témoignage, Thierry Bobet.
Oui, faire son deuil, ça ne veut pas dire que tout est terminé, bien sûr. Ça veut dire qu'on peut... de nouveau s'intéresser à des choses, à des nouvelles choses, reprendre des intérêts, reprendre des relations. Ça veut dire qu'on n'est plus complètement rempli par le vide. Mais bien sûr, c'est quelque chose qu'on porte toujours en soi et qui revient à certains autres moments de la vie.
Marie-Claude Desjeux.
Je voulais répondre à cette dame de façon directe parce que j'imagine la difficulté qui a dû être la sienne et je mesure. Aujourd'hui, justement, en France, pour pallier justement probablement à cette difficulté, il y a une cellule de crise qui existe au Quai d'Orsay et qui, en cas de catastrophe, soit aérienne, soit d'accident collectif ou d'attentat, est systématiquement déclenchée. Et justement, l'objectif de cette cellule de crise, c'est de ne plus laisser les familles gérer. Et je comprends bien ce qu'elle dit, de plus gérer l'immédiat. Et c'est vrai que d'aller chercher des corps, reconnaître des corps, c'est difficile. Et maintenant, ils ne sont plus seuls.
Merci, on arrive au terme de cette émission avec le retour de Sébastien Pao parce que sur France Inter ce soir, on continue une émission spéciale après 20h autour, cette fois-ci quand même de la fête du 14 juillet avec un intitulé « Tous en scène, tous en terrasse ». Sébastien.
Oui, France Inter voulait marquer à la fois ce soir le 14 juillet fête nationale avec le concert de Paris à la Tour Eiffel qui sera diffusé en direct à partir de 21h15 avec Anna Sigalevitch. Et puis en même temps, ce 14 juillet qui est aussi maintenant et qui sera toujours désormais aussi la date de l'attentat de Nice il y a un an. Nous serons donc à la fois sur la promenade des Anglais où a eu lieu un hommage tout à l'heure avant un concert aussi ce soir. Et puis on sera tous en scène, tous en terrasse pendant une heure sur Inter avec le philosophe Vincent Cespedes en direct avec les festivals aussi d'Avignon et aux Francofolies de La Rochelle.
Effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que le 14 juillet reste quand même une fête, fête nationale. C'est un mot qu'il ne faut pas oublier, vous l'avez dit Sébastien. Donc une grande soirée musicale avec Anna Sigalevitch. Le téléphone sonne était réalisé cette semaine par Jérôme Boulet, préparé par Jérémy Younes, Pierre Goff, assisté de Pierre Caron. Merci également à nos deux jeunes standardistes, Anouk et Josué. Pour l'instant, il est 20h sur France Inter.